Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel au micro. Yves Bastide pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Le 16 juin prochain, c'est un jeudi, la médiathèque de Chartres accueille le jury du prix Fulbert de Chartres pour remettre le prix de cette année au lauréat. Le prix Fulbert de Chartres existe depuis déjà 10 ans et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Géraudet qui est le fondateur de ce prix. Alors Patrick Géraudet, bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est que le prix Fulbert de Chartres.
Alors, ce prix a été créé en 2006 lors de la cérémonie nationale, de la commémoration nationale de Fulbert de Chartres, puisque Fulbert de Chartres a été l'évêque de Chartres qui a développé l'école cathédrale, qui a été l'une des plus importantes universités de l'époque dans l'Europe occidentale.
On va dire 12e siècle.
Il est mort en 1026, donc début du 11e siècle.
Début du 11e siècle.
Début du 11e siècle. Et de fait, l'école de Chartres a perduré d'une façon active jusqu'à la fin du 12e siècle, début du 13e, où là, il y a eu une reprise en main du pouvoir ecclésiastique et monarchique qui ont fusionné. Et puis le concile de Latran IV qui a aussi un peu diminué le poids de la cathédrale de Chartres et de son diocèse.
Alors, le prix de Chartres.
Donc, ce prix a été créé afin de favoriser la lecture pour le grand public. Et donc, il couronne chaque année un ouvrage grand public qui concerne le Moyen-Âge. Et dès 2007, on a créé le prix Fulbert de Chartres Jeunesse qui couronne un ouvrage plus dédié à la jeunesse, on pourrait dire des enfants autour de 10 ans.
Donc, en réalité, il y a deux prix de Chartres. Deux prix Fulbert de Chartres, un prix jeunesse et un prix adulte.
On pourrait dire un prix adulte, mais c'est le prix Fulbert de Chartres, c'est suffisant. On a couronné d'ailleurs des tas d'ouvrages dans ces 10 ouvrages depuis sa création, qui sont très variés. C'est ce qui fait un peu l'intérêt de ce prix avec le recul, parce que quand je l'ai créé avec Servan Delair, j'avais pas vraiment une idée. D'abord, ça devait pas être pérennisé spécialement, puisque ça avait été fait lors de la commémoration. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et on a mis en valeur des auteurs plus ou moins connus, d'ailleurs, parce que les membres du jury ne se posent pas la question de savoir si c'est quelqu'un de connu ou pas, à la limite. C'est quelque chose qui nous a plu, qui nous a intéressé, et où il n'y a pas trop d'erreurs historiques. Alors, évidemment, c'est très subjectif, parce qu'on n'est pas des historiens, mais on connaît quand même un peu, et donc on essaye d'avoir des ouvrages un peu cohérents et qu'on estime intéressants à lire, et qui permettent de découvrir certains aspects du Moyen-Âge, comme la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, les pèlerinages à Rome, et puis après la conquête aussi de la Sicile, le contact avec le monde arabe dans le sud de l'Italie, et puis jusqu'à la Terre Sainte, le thème des croisades qui revient souvent, le thème de la peste, puisque c'est la grande peste au XIVe siècle. Donc c'est très varié de ce qu'on peut voir, ou la vie des jeunes femmes aussi, qui est très particulière, avec Clara Dupont-Mono en Belgique. Enfin, c'est un ensemble d'ouvrages, en fait, très variés. On a aussi la construction d'une cathédrale à Barcelone, la cathédrale de la mer. Vous voyez, c'est ça que je trouve intéressant avec ce recul, c'est de voir la diversité des thèmes que l'on rencontre, en fait, dans ces romans du Moyen-Âge.
C'est vraiment à propos du Moyen-Âge.
À propos du Moyen-Âge. Et tout à fait. Et puis, des fois, on s'est intéressé aussi aux documentaires. Une année, on a eu La Chevalerie, un beau documentaire sur la chevalerie. Donc, on n'est pas cloisonné ou la cuisine, ou la vie des écoliers. Donc, on est aussi, de temps en temps, sur des documentaires que l'on a trouvé très pertinents et souvent joliment illustrés.
Alors, une chose sur laquelle je voudrais rebondir, si vous le permettez, c'est le terme « grand public ». C'est-à-dire, ce ne sont pas des ouvrages d'études savantes, faits par des spécialistes pour des spécialistes, mais des livres accessibles à tout le monde.
C'est ça. Ça peut être des ouvrages faits par des spécialistes, mais qui sont faciles de lecture. Parce que le but, c'est de favoriser la lecture, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment aussi à l'origine du projet de continuer à développer, à maintenir cette lecture. Et c'est pour ça que ça a été créé à l'origine par les jumelages, parce que c'était aussi l'idée de maintenir la langue française dans les pays européens. On l'avait fait dans cet esprit, et puis on l'a développé après à la médiathèque en le faisant pour tout public. Et,
mais par contre, il y a une chose, excusez-moi, mais développer les échanges, il y a aussi des livres qui sont examinés par le jury du prix Fulbert, qui parfois ont le prix Fulbert, qui sont traduits.
Oui, on a eu plusieurs fois des livres traduits, de l'anglais pour des ans. On a essayé quand même d'avoir toujours des ouvrages de l'univers européen. C'est peut-être restrictif, peut-être qu'un jour on ira plus loin. Mais c'est vrai, on a eu un ouvrage en espagnol, un ouvrage italien, un ouvrage anglais qui ont eu le prix Fulbert, oui, c'est assez varié. On n'est pas enfermé dans notre petit monde français.
Et je crois qu'il y a une chose à laquelle vous tenez beaucoup, vous me direz le contraire si vous n'êtes pas d'accord, c'est aussi aller à l'encontre de certaines idées reçues sur le Moyen-Âge, de certains clichés que les gens peuvent avoir à propos du Moyen-Âge, sur la condition des... Je reprends les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, sur la condition des femmes, etc.
Oui, il y a des très beaux témoignages qui sont fondés sur des histoires vraies, bien sûr, romancées. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit le rôle de la femme, et certainement la femme était bien plus importante qu'on ne le pense aujourd'hui, qu'on le pense comme ça dans les idées reçues, au Moyen-Âge. Donc c'est intéressant de voir ces points-là. Aussi sur l'influence du monde arabe, on a souvent des livres sur les liaisons dans la Méditerranée. Ça aussi, c'est intéressant de le voir, ou même en Asie mineure. C'est le cas du prix Fulbert cette année, 2016. Donc en fait, c'est vraiment aussi ces échanges entre différents peuples méditerranéens qui est bien mis en valeur par certains auteurs. Oui, globalement, c'est une ouverture sur le monde du Moyen-Âge et sur un monde que l'on connaît mal. Pourtant, c'est une période qui est importante, puisqu'elle dure 1000 ans, de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle. Et donc, bien sûr, 1000 ans, vous imaginez, c'est considérable comme période. Et donc, on a eu des ouvrages sur Charlemagne et sa période, mais aussi sur Louis XI, à l'autre extrémité bientôt de l'histoire du Moyen-Âge. Donc, l'évolution de la société était considérable pendant ces 1000 ans. De la chute de l'Empire romain, on n'est pas du tout dans les mêmes événements qu'après la guerre de 100 ans. Donc c'est une très longue période où on découvre des aspects très différents de ce Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'est pas que l'époque de la cathédrale de Chartres ou de l'école de Chartres, bien que là, ce soit le beau Moyen-Âge, le Moyen-Âge heureux qui dure avant la Grande Peste et qui commence autour de l'an 1000.
Et dans certains des ouvrages que vous avez eu à examiner, certains sont remarquables aussi par les illustrations. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup étonné quand je regardais un peu les ouvrages que vous aviez examinés. Il y en a qui sont de toute beauté, avec des reproductions, des photos en couleur, etc. Il y a ce côté esthétique qui n'est pas négligé quand même.
Oui, il y a beaucoup de... On a trouvé souvent des beaux clichés qui viennent de la Bibliothèque nationale de France sur des belles enluminures ou d'autres éléments, ou des tableaux pour la fin de la période. Et ça, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on s'est tourné aussi par certaines années sur les documentaires, parce qu'il y avait un intérêt à montrer ces beaux ouvrages. On l'a plus fait pour les enfants, les trésors du Moyen-Âge, la cuisine au Moyen-Âge, l'école au Moyen-Âge. Donc là, il y a plus d'illustrations, moins pour les adultes, puisque c'est plus un roman historique pour les adultes en général. Mais c'est vrai que c'est un point intéressant aussi auquel le jury est attentif.
Ah oui, parce que vous disiez au départ, un début du prix Fulbert, c'est de donner aux gens envie de lire. Mais quand on évoque une période aussi lointaine dans le temps, des belles illustrations, ça aide quand même à l'intérêt, à faire naître l'intérêt, non ?
Oui, ça aide. Mais c'est plus, quand on a un roman historique, c'est plutôt l'intrigue. Donc quand on rentre dedans, d'avoir envie de continuer. Donc c'est vrai que certains ouvrages, on les a pas retenus, parce qu'au bout de 50 pages, ou 60 pages, vous ne voyez pas où vous allez. Et moi-même, des fois, je me suis vraiment essoufflé, plus que certains membres du jury qui ont été jusqu'au bout du livre, mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Ça devient illisible et incompréhensible. Et puis, des fois, c'est très violent. Alors ça aussi, on a éliminé certains ouvrages parce que vraiment, la violence, c'est un cliché du Moyen-Âge. Peut-être que c'est aussi une petite réalité, je dis pas. Mais enfin, vraiment, quand le sang coule à flot, oh, Moi, je trouve que c'est quand même un peu difficile à lire.
Si vous permettez, on va prendre une première pause musicale. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui du prix Fulbert de Chartres qui sera remis le jeudi 16 juin à la médiathèque de Chartres à 17h30. Alors, je viens d'interroger Patrick Géraudet, qui est le président fondateur du prix Fulbert de Chartres. À présent, je vais me tourner vers le président du jury de ce prix Fulbert, François Habert, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous présidez le jury du prix Fulbert. Alors, un jury, dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas, c'est toujours un peu mystérieux. Alors, vous allez nous dire d'abord, dans ce jury, il y a actuellement combien de personnes ?
Il y a une dizaine de personnes et des gens de tous horizons.
D'accord. Donc, ça vous donne quand même... Ce sont des gens qui lisent tous les livres qu'on leur soumet et leurs opinions sont parfois très différentes.
Oui, mais on arrive à trouver toujours un terrain d'entente quand il s'agit de faire le choix. Je crois que c'est dans la logique des choses, tout va bien quand on en arrive au dernier choix.
Au dernier choix, parce que dans le courant de l'année, vous lisez, je dis vous, les membres du jury, vous lisez un certain nombre d'ouvrages, et après, il y en a certains que vous éliminez, d'autres que vous gardez. Il y en a qui peut-être... Enfin, vous allez me dire si c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y en a qui se détachent tout de suite.
Voudrais vous préciser un certain nombre de choses. On a à peu près une vingtaine de livres à lire, livres pour les adultes, par an. Ce qui est déjà un très gros travail pour tous les membres du jury, pour arriver à ce que tout le monde puisse les lire. Alors, on a tout d'abord plus ou moins deux ou trois volontaires qui lisent rapidement les livres en premier. Et ce qui fait qu'à la première réunion de sélection, on a déjà une idée de livres qu'il faut absolument éliminer immédiatement. Le reste du jury lit les livres. On leur donne en général une période de 3 mois. Et au bout de 3 mois, on se réunit à nouveau, et à ce moment-là, je lis l'ensemble des fiches de lecture qui ont été données aux membres du jury. Ces fiches de lecture comprennent un certain nombre de renseignements qui permettent de classer relativement facilement les bons et les mauvais livres. Alors, il y a bien sûr le nom de l'auteur, l'illustrateur, quand il y en a un, le genre, le lieu et date à laquelle ça se passe, la qualité et l'originalité de l'ouvrage, les défauts de l'ouvrage, il y a un résumé du livre et, bien sûr, l'analyse avec les commentaires de chaque membre du jury sur le texte, les images s'il y en a, le style et les personnages.
Alors, ce qui est étonnant... On va prendre un exemple extrême. Vous arriviez au moment de choisir définitivement les 3 derniers livres, la sélection finale. Est-ce qu'il arrive que les membres du jury ne soient pas d'accord entre eux ?
Ça arrive, mais ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a vraiment un juré qui n'est pas d'accord, eh bien c'est la majorité qui l'emporte, bien sûr.
Non, mais est-ce que ça se produit souvent ?
Non. En réalité, ça se passe toujours très bien. Et celui qui est contre ou celle qui est contre, en général, s'écrase et accepte ce que les autres ont dit.
Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites que ce sont des gens d'horizons très différents, de personnalités très différentes, de sensibilités diverses. Ils arrivent à se mettre d'accord sur un livre.
Ah oui. Et en général, les trois livres que l'on doit choisir en définitive, on se met d'accord facilement et assez rapidement sur les trois meilleurs livres que nous considérons comme les meilleurs livres.
Oui, bien sûr. Non, mais parce que une certaine presse fait tellement le plaisir de raconter les rivalités qu'il peut y avoir dans certains jurys prestigieux. À ça, c'est pas le cas. Tout se passe paisiblement.
C'est pas le cas, c'est pas comme au prix Goncourt ou au prix Renaudot.
Enfin, d'après ce qu'on dit, attention, il faudrait savoir ce qui se passe réellement. Hein. Moi, je ne suis pas. Et alors, je voudrais que vous me parliez d'un cas un peu spécial que Patrick a évoqué tout à l'heure, à savoir le prix Fulbert Jeunesse.
Bon,
alors comment ça se passe?
Nous avons une des bibliothécaires qui est avec laquelle on s'entend très bien. Les deux bibliothécaires qui sont à notre disposition sont chargés donc pour les adultes et pour les enfants de mettre à notre disposition les livres au fur et à mesure qu'ils paraissent. Jusqu'à une certaine année, c'est-à-dire il y a 3 ans, il me semble, nous sélectionnions nous-mêmes les 3 livres pour les jeunes. Et puis, je ne sais pas qui a eu l'idée lumineuse, mais elle est lumineuse, je trouve qu'elle est très bonne. On s'est dit, pourquoi ne pas faire voter les gosses? Nous avons donc continué de sélectionner...
Trois ouvrages.
Ces trois ouvrages, en général, sont décidés peu avant les vacances. La bibliothécaire chargée...
Peu avant les vacances
d'été.
Un an à l'avance, quand même, pour le mois de septembre.
Un an à l'avance, oui.
Oui, pour le mois de septembre. Pour que ce soit bien clair dans l'esprit des gens... Parce que les enfants, eux, ils vivent sur le rythme de l'année scolaire. Voilà. Excusez-moi, allez-y.
Absolument. Et alors, la Société des Amis de la Médiathèque donne son concours financier souvent pour acheter un certain nombre d'exemplaires de ces 3 livres que nous avons sélectionnés. Donc, la bibliothécaire se charge d'acheter ces 3 livres en nombre suffisant et les distribue dans les classes, en général des classes de CM1, CM2.
Les classes qui participent sont des classes volontaires.
Ce sont des classes volontaires et surtout des profs des écoles volontaires, parce qu'on peut tomber sur des profs qui ne sont pas...
Ah oui, tout à fait, oui.
Ça arrive, hein.
Puis il faut qu'ils l'incluent dans leur programme.
Ils l'incluent dans leur programme. Et on leur donne à ces jeunes, ils ont pratiquement tout l'hiver pour lire ces livres. Pour vous citer un exemple, ils ont arrêté la lecture vers le 15 avril cette année. Puisque nous nous sommes réunis au mois d'avril, c'est le 16 avril, il me semble, et nous avons convoqué tous les enfants, c'est l'idée lumineuse dont je vous parlais, nous avons convoqué les enfants qui sont venus avec leurs profs dans l'auditorium de la médiathèque, et on avait installé pour eux des isoloirs, des urnes, des listes d'émargement, des bulletins de vote... Et ces enfants, après avoir lu, en général, il est choisi 3 enfants dans chaque classe, c'est 2 ou 3 classes. Et il y a 3 enfants dans chaque classe qui lisent des extraits des trois livres. Après cela, on passe au vote. Tout se passe comme s'ils étaient adultes et qu'ils votaient aux élections municipales ou nationales. Et dépouillement normal et proclamation du meilleur livre.
Enfin, du meilleur livre, de celui qui a été élu. On peut dire, puisque c'est des élections.
Oui, celui qui a été élu. Oui.
Voilà. Et donc, au départ, ce sont 3 livres sélectionnés par le jury. Mmh. Et dans ces 3 livres, les enfants choisissent celui qui, à leurs yeux, est le meilleur.
Oui.
Voilà.
Et on s'aperçoit très souvent que le livre qu'ils ont primé n'est pas celui que nous, adultes, aurions primé.
C'est une bonne chose, ça.
Et il faut dire que c'est une chose très difficile, ayant entre 50 et 70 ans, de se mettre dans la peau et dans l'esprit d'un gosse qui a 9 ou 10 ans. Et je pense qu'on a eu raison de faire ce vote. Et c'est en même temps un entraînement pour civique. Ça leur apprend à voter.
On va prendre une deuxième pause musicale. Je vous rappelle que le jeudi 16 juin prochain, à 17h30, à la médiathèque L'Apostrophe de Chartres, sera remis le 11e prix Fulbert de Chartres. En même temps, Nicolas Loss, qui est chantre à la cathédrale, interprétera un certain nombre de chants de l'époque du Moyen-Âge, 10 siècles, comme disait Patrick Géraudet tout à l'heure. Alors maintenant, je vais revenir à François Haber, qui est président du jury du prix Fulbert de Chartres. Alors, François Haber, pouvez-vous nous dire qui est le lauréat du prix Fulbert jeunesse tel qu'il a été désigné par les classes participantes? Non,
vous vous rappelez? C'est Madame Sylvie Bagès qui a le prix cette année pour son Du Guesclin. C'est un très beau petit livre.
D'accord, donc apparemment pour les enfants des écoles de CM2, c'était quand même Du Guesclin qui a eu la palme.
Alors, c'est plus compliqué que ça souvent, parce qu'il y a une classe qui a voté Du Guesclin à l'unanimité quasiment, alors qu'une autre classe va avoir partagé son vote pratiquement en trois entre les différents ouvrages. Parce que bon, bah, chacun a sa sensibilité, chaque élève a sa sensibilité.
Et ça a été le cas cette année, vraiment très, très différent. Les deux classes ont voté tout à fait différemment.
Et ce qui était intéressant, parce que j'ai assisté à ce vote, c'est le sérieux avec lequel les électeurs et électrices ont joué le jeu. Ils ont vraiment joué le jeu de façon très, très sérieuse.
Alors je pense aussi que c'est lié aux enseignants qui sont de grande qualité, de Maurice de Vlaminck et du Grand Jardin, deux écoles où ils sont vraiment chaque année, ils font très attention à bien préparer les élèves, à bien structurer cette affaire du prix Fulbert de Chartres. Et je les en remercie parce que c'est vrai que c'est un travail supplémentaire, c'est un projet pour eux, et donc c'est important que les élèves lisent ces ouvrages, parce que le but c'est la lecture et la compréhension, et donc c'est très bien pour cela, et je pense que c'est une très belle initiative de pouvoir faire participer les écoles de la ville.
Alors François, tout à l'heure vous disiez que ça fait à peu près 20 livres à lire pour les adultes.
Oui.
Ce qui en reporte sur 10 ans, ça fait 200 ouvrages. Ouh là là, ça fait quand même beaucoup.
Ça fait quand même beaucoup. Et je voudrais en profiter pour remercier les membres du jury qui se donnent vraiment à ce travail qui est important, très important.
Ouais. Surtout que je suppose que vu la variété des thèmes que ça peut recouvrir, il y a des gens qui doivent être plus attirés par certains ouvrages que par d'autres.
Très certainement, oui.
Non, je pense à Patrick.
Oui, tout à fait, parce que c'est très varié. De toute façon, chaque jury a un peu sa sensibilité, donc automatiquement...
Évidemment, quand on parle de la vie au Moyen-Âge ou quand on parle de l'histoire au Moyen-Âge, c'est deux sujets tout à fait différents. Et il y en a qui sont plus attirés vers l'un que vers l'autre, c'est sûr.
Surtout que, comme le rappelait Patrick tout à l'heure, le Moyen-Âge, ça fait quand même 1000 ans.
1000 ans.
C'est impressionnant.
Et ce n'est pas un âge moyen, vraiment. J'aime pas beaucoup ce nom de Moyen-Âge, parce que c'est une période où il y a eu des moments extraordinaires. Quand on voit la création des cathédrales gothiques, ou quand on voit ces monuments incroyable à penser, à imaginer et à faire tenir debout. Quand on imagine les petites maisons autour et cette grande cathédrale de Chartres, par exemple. Donc, c'est des périodes de grande prospérité, de développement, l'agriculture.
Et l'enthousiasme des populations pour réaliser ces cathédrales, par exemple.
D'ailleurs, tout à l'heure, vous évoquez certains ouvrages qui se rapportent à des constructions de cathédrales, à la création de vitraux, aux enluminures, enfin, tout ce qui fait un peu de l'illustration qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire, ce foisonnement qu'il y a eu.
Et oui, c'est une période très riche. Hein. C'est vraiment, pour nous, la Renaissance, c'est là, du 11e au 13e siècle, c'est une vraie Renaissance en France. Après la Renaissance carolingienne, il y a eu de nouveau cette grande Renaissance du début du millénaire, c'est certain.
Alors, tout à l'heure, je rappelais que le prix Fulbert sera remis le jeudi 16 juin à 17h30. Alors, Patrick Géraudet, les auteurs des deux ouvrages primés pour la jeunesse et pour adultes seront là.
Oui, et c'est ça que je trouve incroyable. En général, ils viennent. La première année, j'avais peur de... Après, je me suis dit, mais un seul prix, si le lauréat ne vient pas, j'ai personne devant moi. C'est pour ça que j'avais imaginé de créer un prix jeunesse Fulbert Jeunesse, parce que je me disais, sur deux, j'en aurais bien un des deux qui viendra. Et puis, globalement, nous avons les deux qui viennent régulièrement.
Et qui parlent avec le public.
Et qui parlent avec le public, et qui sont très communicants, ils parlent agréablement avec le public. On n'a jamais eu des auteurs désagréables aussi. C'est ça que je craignais, je connais pas
ces auteurs. Et pour les adultes, on a même eu une Italienne qui s'est déplacée de Milan, je crois.
Oui, tout à fait. Donc on a vraiment, ils sont très contents d'avoir un peu pris Fulbert de Chartres, et donc ça fait plaisir, ça nous fait, aux membres du jury, ça nous fait très plaisir, parce qu'au départ je pensais pas, et là Jean-Pierre Luminet a confirmé sa présence, et puis Sylvie Bagès aussi, donc ils seront là le 16 juin, donc les enfants les rencontreront dans la journée, et puis les adultes à 17h30, donc c'est vraiment, et puis en plus il y aura Nicolas Loss qui chantera quelques morceaux du 11e, 13e siècle, donc c'est un ensemble cohérent et intéressant. En plus, c'est suivi d'une dédicace pour celui qui aime lire un de ses ouvrages.
Ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas, après, les auteurs éventuellement, pour les gens qui souhaitent, dédicaceront leurs ouvrages. C'est toujours une façon de rencontrer un auteur.
Tout à fait. Qui est vraiment très, très ouvert, très, très agréable, et ça qui m'a fait très plaisir, avec l'aide de l'Esperluette, puisque c'est l'Esperluette qui nous aide pour les dédicaces.
On va dire très convivial pour être à la mode.
Voilà, très convivial, tout à fait.
Alors, pour ceux qui souhaiteraient assister à cette remise du prix Fulbert, je rappelle encore une fois la date, c'est le jeudi 16 juin à 17h30 à l'Apostrophe. Alors par contre, dans l'auditorium de l'Apostrophe, le nombre de places est forcément limité. Donc il est prudent de réserver en téléphonant au 02 37 23 42 00. Patrick Géraudet, je vous remercie. François Haber, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt.